Et si nous redevenions humains ? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute !
Voici la suite du podcast sur le sujet « Mon enfant peut-il être mon ami ?» ou « Un enfant peut-il être mon ami ?» lorsque je suis un adulte. La dernière fois, j'ai exposé ma propre définition de ce que c'est que l'amitié, une relation amicale. Nous avons vu point par point à quel endroit la notion d'ami peut s'appliquer à la relation qui peut exister entre un adulte et un enfant et surtout comment ça peut être un repère suffisamment fiable pour trouver de la bienveillance réelle, concrète, dans une relation, puisque l'intention éducative vient souvent interférer sur la qualité du lien, avec des réflexes autoritaristes ou des réflexes, comme dirait Alice Miller, c'est pour ton bien, donc pour ton bien, je peux te soumettre à mon pouvoir, pour ton bien, je peux te manipuler, te faire du chantage, voire même user de coercition physique en t'isolant dans ta chambre, en te frappant aussi, comme c'est le cas encore dans beaucoup de familles. Donc ça, ce sont des gestes que nous n'aurions pas à l'égard d'un ami, ou alors ce ne serait rapidement plus notre ami. C'est pourquoi la relation amicale peut constituer un repère sur lequel on peut s'appuyer pour trouver ce qui est juste de faire ou de ne pas faire avec un enfant. Bien sûr, ce sont des leviers ou des techniques que je vous propose dans l'attente que cette relation adulte-enfant se clarifie de plus en plus au fil du temps lorsque vous allez travailler cette question et rechercher une relation non violente, bienveillante, bien traitante avec votre enfant, vos enfants ou les enfants dont vous avez à vous occuper. Parce que aucune technique, aucune méthode, aucune philosophie, aucune idéologie ne peut se substituer à un état qui est un état de tranquillité, d'apaisement et de sérénité dans la relation avec les enfants lorsque nous avons intégré et compris en profondeur que cette relation est basée sur l'empathie et le caregiving. Dans ce cas, il n'est plus question de reproduire les gestes et comportements de la violence éducative ordinaire dont nous avons hérité. Nous nous en défaisons petit à petit, naturellement, pour laisser place à cette qualité de lien qui est nourrissante à la fois pour l'enfant, mais aussi pour nous en tant qu'adultes. Alors je voulais revenir sur cette relation « Un enfant peut-il être mon ami ?» ou « Mon enfant peut-il être mon ami ?» afin de lever totalement tout équivoque, tout malentendu, sur des points qui sont parfois sensibles et qui pourraient devenir polémiques si je ne précise pas ce qu'on peut attendre d'une relation adulte-enfant. Si vous avez écouté attentivement ce que j'ai dit dans le dernier podcast, je parle vraiment de la qualité du lien. Et de cette qualité de lien découle forcément un immense respect et une absence de confusion. Dans le milieu dans lequel je gravite, qui est ce milieu de la nouvelle parentalité ou de l'éducation alternative, il y a ce que l'on appelle les anti-agistes. L'anti-agisme est une notion permettant de qualifier ou de définir ce qu'est la discrimination par l'âge. Donc d'un côté, je trouve vraiment cette notion intéressante parce que j'avoue que lorsque j'étais plus jeune, je n'avais pas conscience de cette discrimination par l'âge. En tout cas, je ne l'avais pas conscientisée, même si je la vivais ou je pouvais en être témoin, je ne l'avais pas conscientisée. Je n'avais pas conscientisé ce que peut être l'âgisme, c'est-à-dire la discrimination par l'âge, qui concerne les enfants, mais pas seulement, ça peut concerner aussi les personnes âgées. Comment on peut infantiliser une personne âgée, comment on peut éventuellement la mépriser lui donner un statut très particulier lié à ses limites. Ça peut être sa faiblesse ou sa perte de mémoire ou ses incapacités physiques. Et ça serait profiter un peu de ses caractéristiques qui sont liées à l'âge pour prendre le pouvoir sur la personne. Je peux donner un exemple pour ce qui concerne une personne âgée. ça serait de pouvoir s'autoriser à l'infantiliser parce que elle est âgée tout simplement, donc lui parler comme si elle était neuneu quoi, ou ne pas l'écouter parce que elle est vieille ou il est vieux et que on estime à un endroit que sa parole ou son avis ou son ressenti n'est plus légitime. Donc je suis sûre que vous avez des exemples en tête de scènes où on fait de la discrimination par l'âge. Et pour les enfants, bah c'est exactement la même chose, c'est-à-dire parce que tu es petit, je peux me permettre de. Par exemple, parce que tu es petit, je peux me permettre de t'imposer ce que tu dois manger, je peux me permettre de t'envoyer au lit si tu n'as pas sommeil, je peux me permettre de te parler rageusement ou en te grondant. Je peux me permettre de te taper sur les mains pour pas que tu touches à quelque chose de fragile. Voilà, quelque chose que je ne ferai pas avec une personne de mon âge. Je vais le faire subir à un enfant petit parce qu'il est petit. Donc on le discrimine par son âge à ce moment-là. Je mets des nuances à cette position anti-âgiste parce que je considère qu'effectivement il y a une différence entre un enfant et un adulte. Et ça, c'est manifeste, c'est biologique, c'est physiologique. Un enfant, un adolescent sont des adultes en construction et leur cerveau n'est pas à son stade finalisé puisqu'il le sera qu'à l'âge de 24 ou 25 ans. On sait que là, on a un état intérieur et physique qui est constitué et qui peut pleinement fonctionner sur tous les points de vue, en théorie, cognitif, émotionnel, relationnel, social, créatif, etc. Donc on est vraiment dans un accomplissement de tous ces potentiels à partir de 24-25 ans. Tandis qu'un jeune enfant, par exemple, qui est confronté à une frustration, mais il est assez logique qu'il ne réagisse pas de la même manière qu'un adolescent ou un adulte. Chacun est dans son stade de développement, un stade de développement qui est différent. Et si un enfant face à une frustration éprouve une immense et intense émotion, eh bien, ce n'est pas parce qu'il fait des caprices, ce n'est pas parce qu'il est faible ou qu'il ne se maîtrise pas ou parce qu'il a besoin d'être éduqué au contrôle de ses émotions, mais c'est bien parce qu'il fonctionne prioritairement avec ce cerveau limbique qui se développe en amont du cortex, du néocortex, qui lui va mettre des années et des années à s'élaborer et à élaborer des nouveaux moyens, des sillons qui permettront à l'enfant de sortir de l'émotion plus rapidement. Ça, c'est la théorie, mais vous allez voir qu'en pratique, puisque la plupart des enfants ne sont pas accompagnés sur ce chemin de manière appropriée, qui leur permettent d'utiliser ces facultés-là, et qu'on va avoir tendance plutôt à maintenir l'enfant dans un malentendu émotionnel, relationnel, qui fait qu'il n'y a pas d'issue, puisqu'on alimente l'émotion au lieu de lui permettre d'en sortir, eh bien, alors l'enfant, à ce moment-là, ne sait pas recourir à de nouvelles compétences qui pourraient se construire en lui. Et on devient des adultes très émotionnels à ce moment-là, lorsqu'on n'a pas reçu cet accompagnement adéquat. En revanche, lorsque cet accompagnement s'est manifesté, qu'il a été possible de sortir de l'émotion qui est la première réaction face à un événement frustrant ou dangereux ou contrariant d'une manière ou d'une autre, eh bien, le circuit habituel, c'est vraiment de pouvoir prendre un certain recul, comprendre ce qui se passe pour nous, élaborer des solutions constructives, des solutions qui sont adaptées à la situation, en tenant compte du besoin qui s'est manifesté. Ça veut dire que, je vais vous donner un exemple, si un enfant est face à une énorme frustration ou une problématique, je ne sais pas, par exemple, il sort de la bibliothèque et puis se rend compte qu'on a volé la roue de son vélo, ben là, il y a deux solutions. C'est-à-dire que lorsqu'il vient chercher de l'aide auprès du parent et constater, si le parent le gronde, en lui disant « Ah, oh, mais tu n'avais pas mis l'antivol au bon endroit, et pourquoi tu l'as garé là ? Tu te rends compte ce que ça me coûte une roue de vélo ? Hein ? Tu crois que c'est gratuit ?» etc. Et le gronde, voire le punit, bah, « Puisque c'est comme ça, puisque tu ne prends pas soin de ton vélo, hein, moi non plus, je ne vais pas prendre soin de toi quelque part et je vais te punir. Ou... » Voilà. Donc c'est énorme le traumatisme que ça peut créer chez l'enfant.
en termes d'empêchement au grandir et d'empêchement à devenir un adulte qui est un adulte ressource. Donc là, en l'occurrence, dans cet accompagnement-là, l'adulte n'est pas une ressource pour l'enfant. Au contraire, l'enfant est face à un problème et l'adulte va encore appuyer sur ce problème et créer encore plus de sidération, encore plus d'émotions chez l'enfant qui ne peut pas saisir l'opportunité de cet petit événement qui se passe dans sa vie pour grandir en compétence. Parce que là, il apprend juste que lorsqu'il nous arrive une tuile, bah, il y en a une deuxième qui nous tombe sur la tête derrière et que... Il n'y a pas vraiment de solution, quoi. C'est juste, on est accablé, on est dans la culpabilité d'avoir failli à un endroit, même quand, des fois, même quand c'est, l'enfant y est pour rien. Il va se saisir de cette culpabilité, il va la porter sur ses épaules en raison de la réaction difficile de l'adulte à son égard. Une solution bienveillante, une action bienveillante à l'égard d'un enfant à qui il arrive ce genre de petit malheur, ce serait de l'accompagner, de constater avec lui ce qui s'est passé, d'essayer d'abord en premier lieu d'accueillir son émotion, peut-être que s'il est en pleurs ou s'il est catastrophé ou s'il est vraiment triste de ce qui lui est arrivé, et bien on accueille cette émotion. On la reconnaît en disant « bah oui, je vois vraiment que là, pour toi, c'est difficile de voir que quelqu'un a pris ta roue de vélo. Je vois à quel point tu es triste ou à quel point tu es en colère. » Ça peut être de la colère aussi qui émerge à ce moment-là. Et pouvoir ensuite, une fois que cet accueil est complet, que l'enfant a pu exprimer son ressenti, l'emmener vers des solutions, tout simplement. Mais ce qui va primer, c'est vraiment l'état intérieur de l'adulte. Et si l'adulte est vraiment adulte, c'est-à-dire s'il a pu lui-même élaborer ce chemin intérieur qui lui permet de faire face lorsque il y a une difficulté, eh bien il va y avoir une forme de sérénité, de tranquillité, de force qui va émaner de lui et qui va être un véritable recours pour l'enfant sur lequel il va pouvoir s'appuyer pour trouver intérieurement lui-même sa force et sa capacité à élaborer des solutions constructives. Voilà, donc là on va dire que le cortex est libre. Il est libre de s'exprimer dans toute sa créativité. Et lorsque les enfants sont vraiment accompagnés avec cette tranquillité, ils ont beaucoup de créativité, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer, pour trouver des solutions qui sont vraiment intéressantes, qui sont effectives, qui sont opérationnelles et qui vont permettre d'accueillir la difficulté. Si j'ai fait ce petit détour, c'est vraiment pour expliquer qu'on ne peut pas attendre la même maturité d'un enfant que d'un adulte. Et qu'à ce titre-là, enfants et adultes ne sont pas équivalents. Mais qu'il ne faut pas inverser les choses, c'est-à-dire on parle parfois d'enfants parentalisés, c'est-à-dire c'est à ce moment-là l'adulte qui est dans les chaussettes avec des émotions qu'il dépasse, qu'il déborde. Et c'est l'enfant qui doit à ce moment-là trouver en lui des ressources qui sont parfois difficiles à mobiliser parce qu'il est juste un enfant et qu'il n'est pas prêt à mettre en œuvre ces ressources-là pour accueillir son parent. Je ne sais pas si vous avez sans doute vécu ou eu dans votre entourage des enfants qui vont vraiment se soucier de l'état émotionnel de leurs parents, qui vont essayer de les réconforter, qui vont essayer de trouver des solutions. Mais tu ne pourrais pas faire ça, tu ne pourrais pas faire ça. Parce que lorsqu'ils voient leurs parents dans une grande détresse, par exemple, eh bien, ils vont ressentir beaucoup d'empathie, naturellement beaucoup d'empathie, et aussi peut-être une forme d'inquiétude de voir que le parent n'a pas d'issue, n'a pas de ressources, et l'enfant va se mettre en quête des solutions qui manquent à l'adulte à ce moment-là. Je ne sais pas à quel point cette traversée relationnelle et émotionnelle peut être déconcertante ou pour l'enfant ou même destructrice. Je pense que ça peut l'être si c'est récurrent, c'est-à-dire si vraiment dans la vie de l'enfant il n'y a pas d'adulte mobilisé et qu'il y a juste un adulte qui se comporte comme un enfant. Alors oui, à ce moment-là, ça peut être très difficile de grandir dans un tel contexte. Maintenant, si ça arrive de manière très épisodique, je pense que c'est déjà pas la même chose. Mais en revanche, c'est important d'avoir conscience à ce moment-là que ce n'est pas le rôle de l'enfant de réconforter l'adulte. Et ça, c'est important de le préciser dans le cadre d'une relation amicale, parce que nous l'avons vu la dernière fois entre amis, on est dans une relation d'égal à égal, une relation d'équivalence. Or, ce n'est pas le rôle d'un enfant de réconforter un adulte. Les relations avec des enfants peuvent nous sembler, ou on peut les vivre comme apaisante, réconfortante, positive. Ça peut nous apporter de la joie, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est peut-être de travailler à notre propre joie, à notre propre paix intérieure pour ne pas se nourrir de ce que les enfants nous permettent à leur côté, mais plutôt d'être dans le partage de nos joies respectives et de nos sagesses respectives et de notre vivance respective. Donc ça, c'est une chose importante, voilà, de ne pas confondre. Et en termes de priorité, moi j'ai toujours vécu cette réalité que l'enfant a des besoins, l'adulte a des besoins, mais néanmoins, pour moi, les besoins de l'enfant sont prioritaires, dans le sens où on ne peut pas demander à un enfant de différer ses besoins de la même manière qu'un adulte, tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes moyens par rapport à cela. Imaginons par exemple que j'ai très très sommeil et que mon enfant a vraiment besoin de moi à un moment où il a très très peur dans son lit, il est terrorisé. Je ne peux pas faire passer mes besoins de sommeil avant son besoin d'être réconforté. De mon point de vue, bien sûr, je ne vous impose rien. Je vous partage et je vous propose ma définition de ce qu'est un accompagnement adéquat et bienveillant pour les enfants. Donc pour moi, il y a des priorités. Si je suis en train de discuter, prendre l'apéro avec mes amis, c'est peut-être un moment très très agréable que je vis, un moment de détente dont j'ai vraiment besoin. Néanmoins, si à ce moment-là, j'ai mon enfant qui revient de l'école hyper contrarié, avec visiblement un grand besoin de partager une difficulté, d'être entendu, d'être reconnu et d'être peut-être réconforté sur quelque chose qui lui est arrivé, moi, je quitte l'apéritif que je suis en train de prendre avec mes amis et je vais me mettre à disposition de mon enfant. Donc ça peut être vécu parfois comme extrémiste en se disant « mais alors, l'enfant est toujours devant, toujours prioritaire, toujours au centre ». Dans la mesure où il est, lui, en construction et qu'il n'est pas encore autonome pour prendre soin de ses besoins 100% par lui-même, je dirais que oui, et c'est ce que font d'ailleurs les animaux bien souvent. Si vous observez une maman chat, vous allez voir à quel point elle est mobilisée à 100% sur les besoins de ses petits. Donc elle n'est pas là en train de se dire « ben non, moi j'ai envie d'être seule » ou « là c'est le temps de ma sieste ». Si le petit bébé chat exprime un besoin qui miaule, elle va s'affoler tout de suite à aller le chercher là où il est, le réconforter, lui proposer son ventre bien douillet pour téter ou pour dormir. Et elle est toujours dans cette attention focalisée sur le petit qui grandit. Et pareil pour les oiseaux, par exemple, si vous observez les oiseaux, c'est un travail harassant qu'ils accomplissent lorsque leurs petits ont des besoins d'être nourris. Par exemple, je ne sais plus combien de centaines ou de milliers d'allers-retours une maman mésange rouge-gorge est capable de faire entre la forêt où elle va chercher de la nourriture, des asticots, des petites mouches, des larves, etc. et le nid de ses petits. Mais c'est un travail considérable qui est accompli là par une maman dans la nature. Que les besoins de nos petits soient prioritaires, ça ne fait pour moi aucun doute. Ça ne veut pas dire qu'on se sacrifie, qu'on est complètement dans l'abnégation de ses propres besoins, mais ça veut dire qu'on est capable de les mettre un petit moment sur l'étagère et de dire « je sais que là j'ai un vrai besoin, mais je vais y revenir après, je vais prendre soin de moi, parce que si je ne prends pas soin de moi, je ne pourrai même plus à un moment donné prendre soin de mon enfant. » Donc c'est hyper important d'avoir ce temps pour prendre soin de soi. Mais d'abord, je finis d'accomplir mon travail d'accompagnement. Et lorsque j'ai terminé, bien sûr, je vais pouvoir m'occuper de moi. Ça aussi, c'est une différence à faire entre un adulte et un enfant qui peut jouer dans la relation amicale. Voilà, j'avais déjà aussi parlé du fait que c'est l'adulte qui a quand même la responsabilité de la relation. C'est important pour moi de revenir sur une notion aussi, parce que je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. J'ai eu beaucoup d'enfants et d'adolescents autour de moi, et donc du coup forcément des histoires aussi, de débordements, de comportements d'adultes, notamment avec des ados. Si la relation amicale est permise, bien sûr, il y a un garde-fou absolu à mettre dans un dépassement qui pourrait être dépassement de la relation amicale et se transformer en relation amoureuse. Évidemment, il n'en est pas question à aucun moment et sous aucun prétexte. Et ce serait extrêmement destructeur pour la relation de confiance et de loyauté qui s'installe lorsque l'on établit une relation de très bonne qualité avec un enfant ou un adolescent. Et malheureusement, parce que nous sommes dans une société où ces débordements ont lieu dans l'intimité des foyers, des écoles, des internats, des églises, eh bien, effectivement, nous sommes affectés collectivement par ce risque que la relation devienne abusive et qu'il y ait une confusion chez l'adulte entre ce qui est de la tendresse et de l'amitié qui, dans le cadre d'une relation avec un enfant, pour se perdre dans les méandres d'une vie sexuelle ou d'une vie amoureuse d'adulte et qui doit rester entre adultes consentants, entre personnes qui ont la majorité pour vivre cette expérience. Il y a un interdit total de franchir ce cap-là, cette barrière-là. Qu'est-ce qui fait que parfois c'est franchi ? Eh bien effectivement, dans des contextes où il y a plus de proximité entre adultes et enfants, ou entre adolescents et adultes, plus de complicité, plus d'attention donnée et de temps partagé, il y a toujours ce risque en filigrane qu'il y ait un adulte qui n'ait pas construit une barrière suffisamment solide dans ses relations avec des plus jeunes et qui ait la tentation, consciente ou inconsciente, de franchir ce pas. Donc si j'en parle, c'est que j'ai été témoin plusieurs fois dans le contexte dans lequel j'ai évolué professionnellement et même personnellement de cette dérive qui est extrêmement grave parce qu'elle vient vraiment abuser de la confiance que l'enfant a mis dans la relation et du coup de son modèle relationnel et ça va imprimer une souffrance, une difficulté. Alors selon les gestes qui ont été mis en acte, peut-être la gravité de la situation sera plus ou moins intense, mais dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut observer de très près. Non pas pour juger de manière autoritariste avec beaucoup de violence, mais pour remettre à leur place les actes et les attendus qu'un adulte peut mettre en œuvre à l'égard d'un enfant. Si on ressent quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas clair, qui prête à confusion, évidemment, il faut faire des pas de recul et se poser la question de ce qui se passe pour nous intérieurement. Si on se sent attiré physiquement ou si on se rend compte qu'il y a des gestes que l'on fait qui ne sont pas adaptés à la relation et au respect de l'intégrité de l'enfant. Voilà, donc c'est très très important même d'aller consulter à ce moment-là, de se faire aider, de pouvoir prendre en main cela et sans se laisser glisser dans la tentation de cette relation qui n'est absolument pas consentie par les enfants. Et c'est ça qu'il faut intégrer. C'est que même si les signaux que vont donner l'enfant, c'est des câlins, de la tendresse, des bisous, ils aiment venir sur les genoux, ils aiment prendre la main, ils aiment passer du temps. Et ce sont des êtres tellement attachants, tellement doués pour cette relation d'attachement qu'on pourrait interpréter, hein, si on n'est pas intérieurement fixé dans un cadre de ce qui est possible ou pas entre adultes et enfants, on pourrait intérieurement interpréter ça comme du consentement chez l'enfant, mais ça n'est absolument pas et en aucun cas le cas. Franchir ce pas ne peut être que de l'abus, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il est absolument interdit par la loi. Il est interdit par la loi clairement pour la relation adulte-enfant et c'est moins clair par rapport à la relation entre un adolescent et un adulte. Et c'est à cet endroit-là que je nous invite à être extrêmement vigilants et extrêmement regardants sur les sentiments qui pourraient naître en nous dans le cadre d'une relation amicale. Voilà. Donc c'est vraiment je l'espère en tout cas, une minorité de personnes qui pourraient être concernées par ces impulsions ou ces compulsions. Mais ça vaut le coup de le préciser, parce que ça nous emmènerait directement dans des confusions qui sont graves, qui ont des conséquences qui peuvent être très importantes. Donc après, à chacun de voir ce qu'il fait de ça, à chacun d'estimer à quel moment et à quel point une relation adulte-adolescent pourra, par exemple, peut-être correcte ou peut-être légitime, dans la mesure où l'adolescent a atteint l'âge de la maturité sexuelle, parce que c'est une question très sensible en fait, très sensible, très délicate, d'accueillir ces exceptions relationnelles qui le sont peut-être de moins en moins dans notre société, ou en tout cas avec beaucoup de confusion et beaucoup de trafic aussi. Comment est-ce qu'on va manipuler, influencer même l'opinion pour arriver à davantage légitimer ce type de relation, et j'y reviendrai dans un prochain podcast, parce que en ce moment je trouve que à l'éducation nationale il y a des choses extrêmement préoccupantes qui sont diffusées dans le sens de la vulgarisation d'une sexualité totalement presque sans limite, d'une sexualité très exposée qui ne relève plus de l'intimité. Donc on pourrait s'interroger sur ce qui se prépare comme société ou comme mode relationnel à travers ces documents et cette mise en œuvre d'une éducation sexuelle, soi-disant, prétendument, qui laisse le champ libre à des explorations multiples, qui les légitiment et qui les banalisent en quelque sorte. Voilà, donc je reviendrai sur cette thématique parce qu'elle me paraît très très importante. J'espère que ce podcast aura été suffisamment complémentaire pour lever tout malentendu sur comment est-ce qu'une amitié peut exister entre adultes et enfants. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.